C'est un plaisir de vous retrouver. Je voudrais dédier vraiment ce cours pour la Refouah Shlema d'un ami très proche et très cher. Il s'appelle Saadia Ben Sara, qui est actuellement hospitalisé. Et également pour la Refouah Shlema de tous les Holei Amo Israël, en particulier Eliyahu Ben Dvora, Nissim Ben Daya, Shlomo Ben Yitzhak, David Ben Rachel, Mordechai Ben Mesaouda, Meir Ben Natu, Shimon ben Esther, Elisha ben Rachel, Yosef ben Moshe, Rabbi Moshe Wolf, Yitzhak ben Roset Zari, Rav Israel, Yitzhak ben Miriam, Amram ben Yakod, Shimon ben Luna, Avraham Rahamim ben Sara. Umi she'amar le'olam odai, yomar gam le'tzarotenu dai. Cette phrase que vous connaissez peut-être est une phrase issue d'une Midrash Tanhuma. Dans le Midrash, à un moment donné, il est évoqué au nom de Yaakov Avinu, Mishamar le'olam odai, yomar gam le'tzarotenu dai. Que celui qui a dit à son monde, dai, assez, qu'il dise également à nos tzarot, aux tzarot qui s'abattent sur nous, assez, ça suffit. C'est une jolie phrase qui a été reprise par différents chanteurs chassidiques. Mais je voudrais partager avec vous un chidouche très intéressant qui n'a rien à voir avec Pirkei Avot, mais je pense qu'il gagne à être connu. Qu'est-ce que ça signifie que Akadosh Baruch Hu amar le'olamo dai? Il a créé le monde par la parole, et à un moment donné, il dit au monde dai. Ça suffit. Qu'est-ce qui suffit? Akadosh Baruch Hu, après avoir créé durant 6 jours l'ensemble de la création, l'ensemble des créatures, qu'elles appartiennent à toutes les espèces, qu'il s'agisse du minéral, du végétal ou de l'animal, après avoir créé une multitude de créatures, une diversité absolument innombrable et sans limite, Akadosh Baruch Hu a jugé, a estimé, que de par toute cette créature, il y avait désormais sur la terre suffisamment de créations, suffisamment de créatures qui témoigneraient de l'existence et de la présence du Créateur. Lorsqu'il a estimé qu'il y avait suffisamment de témoins de ce que le monde n'était pas juste le résultat du Big Bang, mais de l'œuvre de celui que nous appelons Borea Olam, du Créateur du monde, il a dit « Dai, ça suffit ». Parmi toutes ces créatures, toutes sont les témoins au quotidien de ce que c'est Hachem qui a créé le monde. Toutes sauf une, l'être humain. L'être humain qui est doué de libre arbitre et qui a la faculté lui aussi de témoigner de la présence de Dieu dans le monde, mais qui quelquefois se pose en concurrent de Dieu dans le monde, et ni la présence de Dieu dans le monde. Lorsque Hachem avait jugé qu'il y avait suffisamment de témoins de la présence, de sa présence dans le monde, eh bien il a dit au monde, « Dai, ça suffit, on arrête la création. » L'homme n'a pas compris cela. Les astres l'ont compris. Il n'arrive jamais au soleil de dire aujourd'hui, « J'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie d'accomplir ma mission. » Il n'arrive jamais à la nature de décider qu'au printemps, les arbres ne refleuriraient pas. Les arbres savent quelle est leur mission, à quel moment ils fleurissent, à quel moment ils donnent leurs fruits, etc. Toutes les créatures le savent, sauf l'homme. À un moment donné, l'homme prend lui aussi conscience de la présence de Dieu dans le monde. C'est dans les moments de difficulté, dans les moments de détresse, dans les moments où il souffre, dans les moments où il est saisi de crainte et de tremblement, alors il se souvient que tout ce qui arrive dans ce monde n'est que l'œuvre de Dieu et l'œuvre de personne d'autre. Et pour le réveiller, l'homme, ce qui lui manque souvent, ce sont ses « corrections », entre guillemets, les souffrances qu'il peut endurer pour reprendre lui aussi sa mission et témoigner de la présence de Dieu dans le monde. Alors le Midrash nous dit « Mishéamar le'olam odai, celui qui a dit à son monde, parce que les créatures étaient toutes prêtes à témoigner de la présence de Dieu dans le monde. Daï, ça suffit. Hachem a estimé que ça suffisait pour les créatures, pour qu'elles soient des témoins valides et crédibles. Il devra, on lui demande, on le supplie de dire aujourd'hui, on lui supplie de dire les tsarotenu daï, que ça suffit pour ce qui est des souffrances que les hommes endurent, du sang et des larmes malheureusement, qui sont versées dans des périodes comme celles que nous vivons. Ceci étant dit, nous allons entrer de plain pied dans la première Mishnah de Maseret Avot. Mais en introduction, je voudrais dire que cette Maseret a une vocation éternelle. Elle a une vocation à nous servir de guide et d'éclairage chaque jour de notre vie. Et elle a prouvé que c'était le cas, puisqu'elle a été introduite jusque dans les Sidourim. Aucune autre Maseret parmi les 63 traités de Mishnayot n'est insérée dans les Sidourim, à l'exception de Pirkei Avot. De manière à ce que tous les jours, si besoin est, nous puissions nous référer aux enseignements de Maseret Avot. Le Maharal de Prague, dans son commentaire sur Pirkei Avot, s'appelle Derech HaChaim. Il nous dit que la Maseret Avot, ce traité de Avot, se décompose en 5 chapitres. Si certains d'entre vous ont un sidour ou une Mishnah à portée de la main, ou savent peut-être, sans regarder un sidour ou un traité de Mishnah, que cette Maseret comporte 6 chapitres et non pas 5, il faut savoir qu'en réalité elle n'en comporte que 5, 5 chapitres de Mishnayot. Le sixième chapitre est un recueil, une compilation de braïtot, c'est-à-dire d'enseignements extérieurs au corpus de la Mishnah, qui ont été rajoutés dans ce traité de Avot. Le Maharal de Prague dit que les 5 chapitres de Pirkei Avot sont en regard des 5 Chumshe Torah, des 5 Chumashim de la Torah. Le premier Perek est en regard de Bereshit, le second Perek en regard de Shemot, et ainsi de suite, le cinquième Perek étant en regard du livre de Devarim que l'on appelle Mishneh Torah, la répétition de la Torah. Si on observe notre première Mishnah, comme bien souvent, nous allons la lire bien évidemment, comme bien souvent dans les Mishnayot, il y a ce que l'on appelle une Reisha et une Sefa, c'est-à-dire une partie introductive, une première partie, et une seconde partie qui est considérée comme celle qui est la fin de la Mishnah. Nous allons lire cette Mishnah pour ceux qui ont un sidour à portée de la main, tant mieux, sinon je pense que beaucoup d'entre nous la connaissent par cœur. Moshe kibel Torah Mishinai. Moshe kibel, Moshe a reçu la Torah Mishinai. Il a reçu la Torah, si je veux prendre une traduction littérale, je pourrais dire il a reçu la Torah de Sinaï. Et ce n'est pas sans appeler des questions que nous n'allons pas manquer de poser. Umesara Yehoshua, et il l'a transmise à Yehoshua. Yehoshua l'Izkenim, l'a transmise aux Ekenim. Les Ekenim, ce sont les sages qui étaient les 70 Kenim qui étaient dans le Midbar, et l'assemblée des sages de cette génération qui était dans le désert. Uskenim, l'Inviim. Après les sages qui étaient dans le désert, les Zkenim ont suivi Yehoshua. Ce sont ceux que l'on a appelés les Shoftim. Il y a toute une période de l'histoire juive qui est la période des Shoftim, au cours de laquelle le peuple d'Israël est dirigé par un sage qu'on a appelé les Shoftim. Zkenim Mesarua, c'est pas écrit Mesarua ou Zkenim l'Inviim. Les Zkenim, les sages, l'ont transmise aux Nevi'im, aux prophètes. Unvi'im et les prophètes. Mesaruha les Anshe Keneset Hagdola. Les Nevi'im l'ont transmise aux membres, aux hommes, de la Knesset Hagdola, de la grande assemblée. Ça, c'est la Reisha de la Mishnah. À partir de maintenant, nous entamons la seconde partie de la Mishnah, qui va être appelée la Sefa de la Mishnah, la fin de la Mishnah. Elle s'inscrit bien sûr dans la suite logique de la Reisha, et elle commence ainsi. Hem amru shelosha dvarim. Hem, ils ont dit, qui sont-ils? Les ils, ce sont les Anche Keneset Agdola. Hem amru shelosha dvarim. Hevu metunin badin. Soyez prudents. Soyez circonspects dans les jugements que vous portez. Veha'amidu talmidim harbe. Et élevez de nombreux disciples, de nombreux élèves. Va'asu seyag la Torah. Et faites des barrières autour de la Torah. Ce sont les halachot qui nous préservent quelquefois d'aller trop loin dans l'éventuelle transgression d'une prescription directe de la Torah. Les chachamim ont établi des seyagim, des barrières, qui nous empêchent de franchir les lignes rouges ou les lignes jaunes. Cette Mishnah appelle plusieurs questions, car elle ne s'inscrit pas manifestement dans la logique des traités, des chapitres de Pirkei Avot. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y avait 5 chapitres. Les 4 premiers ont une particularité, c'est que chacune des Mishnayot est rattachée au nom d'un Tana. Le Tana, souvent la Mishnah emploie l'expression « Hu Haya Omer » et le Rav Tzvi Yehuda Kouk disait « Hu Haya Omer » ne signifie pas « il disait » mais « Hu Haya Mashehu Omer » il ne disait que ce qu'il était. Il ne se contentait pas de dire. Parler, tout le monde peut le faire. Mais être d'abord et n'enseigner ensuite que ce que l'on est en mesure d'être soi-même, c'est une dimension très différente. Je disais que dans les 4 premiers chapitres de ce traité, toutes les Mishnayot sont rattachées à un Tana. Au début, c'est dans l'ordre chronologique, on va y venir. Ça commence la deuxième Mishnah du chapitre par Shimon HaTzadik. C'était le dernier dans la chronologie de Anshei Knesset Agdola. Et ensuite, ce sera les Zugot. Ensuite, ce sera les Tanaïm en fonction de la chronologie. Par contre, le cinquième chapitre n'est pas du tout présenté comme cela. Le cinquième chapitre, dont on a dit qu'il était en regard du Sefer Dvarim, il commence par « Barasara ma'amarot nivran ha'olam ». C'est par 10 paroles que le monde a créé. Et ensuite, il y a toute une déclinaison avec le nombre 10. Asara dorot mi Adam ve'ad Noach. Asara dorot mi Noach ve'ad Abraham. Ensuite, on passe au chiffre 7. Ensuite, on passe au chiffre 4. Tous ces chiffres ne sont pas choisis au hasard. Et ce cinquième chapitre est décliné ainsi jusqu'aux dernières Mishnayot du chapitre qui rejoignent la présentation et la logique habituelle du Pirkei Avot, et qui rattache l'une des dernières Mishnayot du chapitre, et donc du traité, si on considère que le traité est composé de 5 chapitres, à Yehuda ben Tema, et ensuite il est question de Ben Bagbag. Cette première Mishnah du premier chapitre s'inscrit dans la logique du cinquième chapitre. Elle ne s'inscrit pas dans la logique des 4 premiers chapitres. Cette première Mishnah du premier chapitre n'est attribuée à aucun Tana. À aucun Tana. Rabbi Yehuda Hanassi, qui a compilé l'ensemble des Mishnayot pour les regrouper dans le Seder Mishnayot, dans le Chasse Mishnayot, a eu à relever un défi absolument extraordinaire en rédigeant le traité de Avot. C'est qu'il a souhaité résumer dans une Mishnah courte, dans une phrase d'un Tana, ce qu'était le Tana, ce qu'était l'environnement du Tana. si on étudie les Pirkei Avot, tant dans leur chronologie que dans les chapitres qui ne sont pas présentés selon la chronologie, c'est-à-dire selon la succession des générations, eh bien on se rend compte que les enseignements sont appelés les Avot. Qu'est-ce que ça signifie que les enseignements sont appelés les Avot? Dans la Halakha, il existe un concept qui est Av Vetolada. Le Av, par exemple, dans les travaux de Shabbat, le Av Melacha, c'est l'un des 39 travaux. De chacun de ces 39 travaux, il existe un nombre très important de travaux dérivés, qui sont bien évidemment des travaux interdits Shabbat, mais ils découlent tous de l'un des 39 travaux que l'on appelle Avot Melacha. Rabbi Yehuda Hanassi a souhaité nous faire prendre la mesure des enseignements des Tanaïm qui sont présentés des Avot, comme s'ils étaient les Avot de leurs enseignements. C'est-à-dire que lorsqu'on va nous parler de Rabbi Akiva, lorsqu'on va nous parler de Hillel, lorsqu'on va nous parler de Rabban Shimon ben Gamliel, et qu'on va nous dire en une phrase, ou en une Mishnah, quelquefois en un peu plus qu'une Mishnah, « Mashehu haya omer », ce qu'il était, il le disait, c'est-à-dire ce qu'il disait en fait, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, il a résumé dans cette phrase qui est énoncée dans Avot, le Av des enseignements, le père de tous les enseignements de ce Tana, cela sous-entend que tous les autres enseignements de ce même Tana qui sont dans tout le Chas ne sont que des dérivés de cet enseignement. Ça, c'est une gageure, un défi absolument extraordinaire qu'a pu relever Rabbi Yehuda Hanassi dans la présentation de Pirkei Avot. Revenons maintenant à notre Mishnah. Je disais qu'elle n'était pas rattachée à un Tana. Et elle commençait de manière très surprenante. Moshe qui bel Torah mi Sinaï. Moshe a reçu la Torah au Sinaï. Umsara al Yoshua, etc. On nous présente dans toute la Recha de la Mishnah, dans toute la première partie de la Mishnah, on nous présente une chaîne de transmission. Une chaîne de transmission qui pourrait servir d'introduction à tous les traités du Talmud. Or, la vocation de Avot, ce n'est pas du tout ni de présenter une histoire, un rappel historique. Si on voulait avoir un rappel historique de la chaîne de transmission, il y a d'innombrables sources pour retrouver la chaîne de transmission. Mais Rabbi Yehuda Hanassi a souhaité introduire ici, dans cette première Mishnah, du premier chapitre, cette chaîne de transmission. Que nous dit cette chaîne de transmission? Il y a d'une part à observer les mots qui sont employés. Moshe qui belle. Moshe a reçu. Moshe a reçu Torah, il a reçu la Torah, Mishnah. Deux questions. Par rapport aux autres acteurs de la chaîne de transmission, que seront Yehoshua, que seront les Skenim, les Nevi'im, etc. À propos de tous ces autres acteurs, il est dit qu'il leur a été transmis quelque chose. Ou Messara, Messara Milashon Massoret. Tandis que Moshe, lui, Kibel, Moshe, il a reçu. Qu'est-ce que cette chaîne de transmission nous apprend à nous aujourd'hui, ici et maintenant? Nous avons dit que Maseret Avot avait une vocation éternelle, intemporelle. Les enseignements qui seront livrés par tous les autres Tanaïm, si nous les comprenons, nous sommes en mesure de tirer les enseignements qui nous permettent d'avancer dans la vie. Mais ce rappel historique, en quoi est-ce qu'il peut me permettre d'avancer dans la vie? Qu'est-ce que j'en tire de manière concrète pour grandir, pour m'élever? Pour répondre à cette question, il faut essayer d'analyser les mots qui sont employés. Moshe qui bel Torah mi Sinaï. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Pardon, Moshe n'a pas reçu la Torah du Sinaï. Peut-être qu'on veut me donner une indication du lieu où Moshe a reçu la Torah. Mais il aurait dû être dit, Moshe qui bel Torah, bé Sinaï. Et quand bien même cette notion de Sinaï n'aurait pas été évoquée ici, ça n'aurait rien changé à notre compréhension de la Mishnah. Moshe qui bel Torah, Umsara al Yehoshua. Nous savons tous que Moshe a reçu la Torah au Sinaï. Il y a donc ce que cette indication du lieu géographique qui appelle question, si tant est que ce soit une indication qui nous est donnée, parce que vous observerez que pour aucun autre des acteurs de la chaîne de transmission, il n'est évoqué de lieu géographique. On ne nous a pas dit où Yehoshua a transmis aux Skelim, ni où les Skelim l'ont transmis aux Nevi'im, etc. Donc quelle est l'importance de ce Bé Sinaï ? Ensuite, nous avons d'une part Moshe Kibel. Si tu veux me dire, Moshe a reçu la Torah de Hakadosh Baruch Hu, sous-entendu que le Moshe qui bel Torah Missina, il ne l'a pas reçu de la montagne, mais il l'a reçu de Hakadosh Baruch Hu, les Mfarshim répondent unanimement, ce n'est pas possible, que la volonté de Rabbi Yehuda Hanassi, ce soit d'exprimer que Moshe a reçu la Torah de Dieu, pour la simple raison que on n'imagine pas un homme, quel que soit son niveau, et même Moshe Rabbeinu, recevoir quelque chose directement de Dieu. Et si tu veux me dire que c'est aussi juste un élément de transmission, alors j'aurais dû continuer la Mishnah en me disant « Veille Yehoshua, qui bel mi Moshe, Yehoshua a reçu de Moshe ». Or, ce n'est pas du tout écrit comme ça. C'est écrit que Moshe, « Messara al Yehoshua », Moshe a transmis à Yehoshua. Quel enseignement ? Premier point, on veut nous signifier que Moshe a reçu la Torah mi-Sinaï, le mi qui désigne la causalité, le fait que ce soit mi-Sinaï, c'est de la situation dans laquelle il s'est mis, Moshe Rabbeinu, pour recevoir la Torah. Et de la même manière que lorsque Hachem a voulu donner la Torah aux hommes, les montagnes, dit le Midrash, se sont battues pour être celles sur lesquelles le don de la Torah aurait lieu, le Sinaï n'a pas souhaité participer à la compétition. Parce que Sinaï, c'est une petite montagne, sans importance. C'est parce que c'est une petite montagne, sans importance, que Rabbi Yehuda Hanassi nous dit « Moshe ki bel Torah mi Sinaï ». C'est parce qu'il s'est mis en situation d'être Sinaï, c'est-à-dire de s'annuler complètement. Moshe, c'est l'homme dont la Torah nous dit « Veha ish Moshe anav mikol ha'adam asher al pnei adama » que Moshe Rabbeinu était l'homme le plus modeste que la terre ait jamais porté. Chez Moshe Rabbeinu, il n'y a pas d'ego. Chez Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de volonté personnelle de briller, de s'approprier un enseignement, ni même d'être celui qui va apporter quelque chose. Moshe s'est mis en situation de bitoul de soi, c'est-à-dire de renoncement total de soi, de manière à ce que ce que Hakadosh Baruch Hu a souhaité donner, soit livré dans l'état dans lequel le Créateur, Hachem, a voulu donner la Torah, sans qu'il n'y ait la moindre interférence, la moindre ombre d'ego personnel dans la position de Moshe en recevant la Torah. Et Moshe qui bel Torah mi Sinaï, Rabbi Yehuda Hanassi veut nous dire que Moshe s'est mis dans la situation où il était comme le Sinaï, en annulation de soi, en renoncement de soi, et c'est ce qui lui a permis d'être Mekabel. À partir de Moshe, il y a une transmission des hommes vers les hommes. Et quelle est la différence entre Kibel et Messara ou Messer ou Massar? C'est que dans Massar, dans la notion de transmission, il y a nécessairement un émetteur et un récepteur. Si je délivrais le même message à tous ceux qui sont là, je ne sais pas combien de personnes, 10, 20, de manière individuelle, eh bien, il est évident, il est absolument certain que chacun aurait une perception du message qui ne serait pas identique et qui serait peut-être même très différente de celle qu'a eue son propre voisin. Lorsque Moshe reçoit, c'est comme s'il était transparent. Et la Torah, elle va chez Moshe, lui, il l'a reçu dans cette situation de Bitoul, une situation de Bitoul telle que Moshe s'inscrit dans la dimension de ce que la Kabbalah appelle Sfirat HaNetzach, l'éternité. Et vous savez à quoi ça sert cela? Parce que si Moshe s'était mis en situation de récepteur, comme tout être humain, et qu'il avait introduit la moindre particule d'ego personnel, la transmission aurait fait que il y aurait eu des récepteurs très différents et une compréhension et des ajouts, voire des retraits du message originel de la Torah. Comment expliquer que cette Torah qui a été donnée à Moshe, il y a 3332 ans, continue d'être appelée Torah Moshe, que cette Torah qui a fait l'objet de tant de cours, de tant de transmissions, de tant d'écrits, de tant de commentaires, et Hachem a voulu que Yeshivaim Panim la Torah, qu'il y ait 70 facettes dans la compréhension et l'interprétation de la Torah, cette Torah soit restée éternelle. Moshe Rabbeinu, il est dans Sfirat HaNetzach, dans ce que la Kabbalah appelle le Netzach, l'éternité. C'est uniquement parce qu'il s'est mis dans cette situation de bitoul, de renoncement de soi, que le message n'a pas été brouillé durant tous ces milliers d'années. Moshe, c'est Chochma. Ce que la Kabbalah appelle Chochma, c'est l'étincelle de génie qui germe plusieurs fois par jour dans le cerveau de chacun d'entre nous. Mais c'est cette Chochma-là, elle a besoin d'une maturation pour arriver à un résultat. La maturation, Hachamim nous disent que si Moshe c'est Chochma, alors Yehoshua c'est Bina. On passe de l'étincelle, de l'éclair de génie, de l'étincelle de génie, à la nécessité de la maturation de l'idée pour qu'elle aboutisse à la Bina, Hit Bonenut. La Bina, souvent dans la Kabbalah, c'est marqué Abba ve Ima. Le Abba, c'est justement la Chochma, et le Ima, c'est la Bina. Ima, Bina, parce que le processus de maturation, même de l'être humain à naître, c'est 9 mois de gestation et de maturité auprès de la Ima. Et si Moshe ne s'était pas mis dans une telle situation, cela, jamais la Torah n'aurait pu être préservée. Écoutez ce que dit la Gemara dans Menachot, et je pense que c'est quelque chose que vous connaissez tous. Lorsque Moshe Rabbeinu était au Har Sinaï, une fois qu'il a reçu la Torah, il a considéré que sa mission était terminée et qu'il pouvait redescendre. Et il voyait que Hachem ne lui donnait pas l'autorisation de redescendre. Alors, Moshe Rabbeinu demanda à Kadosh Baruch Hu, « Mi me'akev al yadcha, qu'est-ce qui empêche que tu me donnes cette autorisation ?» Et Kadosh Baruch Hu lui répond, « Il y a dans les générations à venir un homme, un sage, du nom de Akiva ben Yosef. Akiva ben Yosef n'a pas fini toutes les drachotes qu'il devait faire sur la Torah jusqu'aux interprétations des petites couronnes qui se trouvent sur certaines des lettres de la Torah. Tile tilin shel halachot al kol hakotzin. Des dizaines de milliers d'interprétations sur chacune des petites couronnes qui se trouvent sur certaines lettres de la Torah. Moshe Rabbeinu dit, mais pourquoi est-ce que cet homme à venir nous empêche? Alors Hachem lui répond, parce qu'il n'a pas fini, et la Torah que je vais te livrer, que je vais te donner, elle recèle en elle tous les commentaires et toutes les compréhensions qui seront faites à travers toutes les générations. Et il y en a un, c'est Rabbi Akiva, qui n'a pas terminé ses commentaires. Alors Moshe Rabbeinu dit, s'il existe un homme comme ça, est-ce que je peux le voir? Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, Chazor le achorecha, marque la distance, retourne en arrière, prends du recul. Alors Moshe Rabbeinu s'exécute, il prend du recul, et Akadosh Baruch Hu lui montre Rabbi Akiva dans sa yeshiva, en train de donner un cours à ses élèves. Moshe Rabbeinu souhaite entendre. Alors, il veut s'asseoir parmi les élèves et il ne trouve une place qu'au 8e rang de la yeshiva. Et il s'assoit. Et il écoute Rabbi Akiva donner son cours. À ce moment-là, dit la Gemara, Tashash Kocho, il s'est affaibli. Pourquoi s'est-il affaibli? Parce qu'il ne comprenait pas ce que disait Rabbi Akiva. À un moment, un des élèves qui était présent au cours de Rabbi Akiva demande, Rabbi, minayin lecha. Il interpelle Rabbi Akiva et lui dit, mais d'où est-ce que tu tires cet enseignement? Et Rabbi Akiva répond, halacha le Moshe mi Sinai. C'est une halacha qui a été donnée à Moshe au Sinai, et tout ce que moi j'enseigne, toute la bina, tout le travail de maturation et de maturité qui a été fait sur les enseignements qui ont été donnés par Akadosh Baruch Hu à Moshe au Sinaï, tout est Torah Netzach, tout est Torah Moshe. À ce moment-là, la Gemara dit, lorsque Moshe Rabbeinu a entendu Halacha le Moshe mi Sinaï, nityashva da'ato, à ce moment-là, il a retrouvé ses esprits. Bon, Moshe Rabbeinu retourne vers Hachem et il lui dit, tu m'as montré ce Hacham, tu m'as montré cet homme, tu m'as montré la grandeur de sa Torah, est-ce que tu peux me montrer sa récompense? Et Akadosh Baruch Hu lui répète, Hazor le'achorecha, retourne en arrière. Moshe Rabbeinu retourne en arrière et comme pour observer une image, on a besoin de prendre du recul quelquefois et il voit le supplice qu'endure Rabbi Akiva au moment de sa mort. On lui arrache la chair, on lui arrache la peau avec des brosses de métal. Ensuite, on prend sa chair, on l'accroche à des crocs de boucher. Et on fait une vente publique de la chair et des muscles de Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu dit, Zo Torah vezu schara, c'est ça la Torah, et c'est ça sa récompense. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, pour la deuxième fois, je vais vous dire quelle était la première, Shtok kach ala bemarchava lefanai. Shtok, tais-toi. Kach ala bemarchava lefanai. C'est comme ça que j'ai pensé. Penser quoi? Penser le monde. Si tu veux avoir une vision claire du monde, il faut avoir la possibilité de reculer suffisamment pour voir 2000 ans avant l'événement et 2000 ans après. Là, tu peux peut-être comprendre l'événement dans tout son sens. Mais pour l'instant, je toque. La première fois que Moshe Rabbeinu a eu la même réponse, c'est quand toujours à propos de Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, tu as un homme comme ça qui vient dans les générations à venir et tu me choisis à moi pour pour donner la Torah. Et Akadosh Baruch Hu lui a répondu, Shtok kach ala bemarshava lefanav. Tais-toi. C'est ainsi que j'ai pensé Kaviyachor. Alors, on s'interroge sur le shtok. Tais-toi. Est-ce que tais-toi de Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu signifie, bien que tu sois Moshe Rabbeinu, tu restes un être humain et tu ne peux pas comprendre, donc inutile de poser la question. Ou bien il y a autre chose. Shtok ne veut pas dire tais-toi, tu n'es pas assez intelligent pour poser les bonnes questions. Shtok signifie, nous dit Chachamim, réalise une introspection. Arrête de parler. Arrête de produire de l'événement à travers la parole. Regarde au fond de toi. Et c'est seulement lorsque tu vas regarder tellement profond au fond de toi que tu vas te rattacher au Makor, c'est-à-dire à la source, à Dieu lui-même, que tu pourras comprendre. Je ne sais pas si je me suis exprimé assez clairement, mais concrètement, je veux dire que Akadosh Baruch Hu a créé le monde durant 6 jours. Il a créé Be'asara Ma'amarot, nous dit la Mishnah au 5e chapitre de Pirkei Avot. Il l'a créé uniquement par la parole. Mais le 7e jour, Shabbat, Akadosh Baruch Hu s'est arrêté. Akadosh Baruch Hu s'est arrêté de quoi ? De travailler, donc il s'est arrêté, en réalité, de produire par la parole. Il s'est arrêté de parler. Le 7e jour, Akadosh Baruch Hu s'est arrêté d'exprimer pour créer. Quelle leçon on doit en tirer, nous, le 7e jour ? Je me permets de dire ça. Le Shabbat, c'est écrit dans nos mirotes de Shabbat, Hirhurim utarim, de penser à quelque chose de chol, c'est permis. Mais chez lo yiye diburcha be Shabbat ke diburcha be chol, que tes propos, tes paroles, ne soient pas le Shabbat, ceux du chol. Et si tu veux te rapprocher de Dieu, alors shtok, tais-toi. En particulier dans les moments où il faut se taire. En particulier dans les moments où on est dans les synagogues. Moi, Ibra Botay, je veux me permettre de rappeler une halakha. Je rappelle rarement des halakhot en public. On n'a pas le droit de parler dans une synagogue. On raconte sur Rabbi Yehuda Tzadka, qui était le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, qu'un jour, il est rentré dans la synagogue, la Yeshiva, et il a vu une affiche sur laquelle il était écrit, ce genre d'affiche que nous avons tous déjà vu, Assur les daber bishaat hatfila ou kriat haTorah. Il est interdit de parler au moment où nous prions et au moment où nous lisons la Torah. Alors Rav Yehuda Tzadka s'est arrêté devant cette affiche. Je pense qu'elles sont très répandues aujourd'hui, mais qu'à cette époque-là, elles n'étaient pas aussi répandues. Il a bien observé cette affiche et il a demandé qu'on lui apporte un crayon. Et avec ce crayon sur l'affiche, il a rayé Bishaat hatfila ou kriat haTorah. Il n'a laissé lisible que Assur les daber. Le 7e jour, le jour du Shabbat, surtout lorsque nous nous trouvons dans les synagogues. Rappelons-nous, shtok, tu dois te taire. Si tu veux comprendre les jours qui vont suivre, le dimanche, le lundi, le mardi, etc., etc., le Shabbat, tu dois te taire. Si tu veux comprendre à un moment donné, il faut savoir s'arrêter de parler, s'arrêter de produire. Parce que la parole, elle a un caractère instantané qui fait que lorsque tu veux avoir des informations sur l'événement qui vient de se produire il y a 2 minutes, tu commences à poser des questions. Et cette production, elle n'a pas de limite. Or, elle devrait trouver des limites. En particulier le Shabbat. Sur ce point de halakha, je voudrais maintenant passer, maintenant que nous avons présenté sur la récha de la Mishnah, en disant que j'espère que je me suis exprimé suffisamment clairement pour qu'on saisisse qu'il ne s'agit pas uniquement d'une description historique de la chaîne de transmission de la Torah, mais qu'il y avait ici des enseignements essentiels à tirer au travers des questions que pose la Mishnah. Pourquoi Missinaï? Pourquoi quelquefois le mot Kibel, une fois le mot Kibel, et à d'autres, et ensuite dans la chaîne de transmission, le mot Messer, Kibel, l'annulation de soi, pour recevoir quelque chose qui va rester éternel. Sinaï, c'est se mettre en situation de Bitoul pour recevoir la Torah qui a une vocation éternelle. Mais Sarah, la transmission dans la Massoret, elle commence avec Yehoshua, pardon, et elle se termine avec Anshe Knesset Agdola. Je voudrais, avant de parler de la Sefa de la Mishnah, attirer votre attention sur la deuxième Mishnah du premier chapitre. Celle-ci, elle s'inscrit totalement dans la logique que nous avons décrite des Pirkei Avot, c'est-à-dire on rattache une Mishnah à un Tana, à son environnement, à son monde, et Rabbi Yehuda Hanassi nous révèle, au travers l'enseignement du Tana, un monde dans sa globalité. La seconde Mishnah, c'est celle de Shimon HaTzadik, dont on nous dit « Haya Mishayare Knesset Agdola ». Il était le dernier, dans la chronologie, il était le dernier des membres de la Grande Assemblée. Et lui, il nous a livré son enseignement. À propos de la Grande Assemblée, Knesset Agdola, notre Mishnah, la première Mishnah, nous dit « Hem, la Grande Assemblée, dont je vous ai dit, je crois qu'elle était composée de 120 membres, c'était une assemblée de Hachamim et de Nevi'im à son origine. » Elle comptait Haggai, les derniers prophètes, Haggai, Malachi, Zraria. La grande assemblée a compté également Mordechai à Yehudi, Hanania, Mishael, Azaria, Nehemia. Elle a été fondée par Ezra. Le dernier membre de la grande assemblée était Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, il a servi durant 40 années en tant que Kohen Gadol. Et il était le dernier membre de la grande assemblée. La seconde Mishnah va nous livrer tout l'univers de Shimon HaTzadik sur un enseignement qui tient en trois mots. Lui, il dit le monde al shlosha dvarim ha'olam omed, le monde repose sur trois pieds, sur trois choses. Al la Torah, al avodah et al gmilut hasadim. Mais ça, ce sera peut-être un prochain cours. Je vous ai parlé de Shimon HaTzadik uniquement parce qu'il était le dernier des membres de la grande assemblée. Cette grande assemblée, ils se sont mis à 120, nous dit la première Mishnah, a priori, à la première lecture. Vehem amrou shlosha dvarim. Ils ont dit trois choses. Et là, ça devient très surprenant. Je vous ai dit de qui était composée la grande assemblée. De prophètes, de hachamim, de leaders du Ham Israël. La grande assemblée s'est étalée sur une période qui a duré 2 siècles. Au cours de ces 2 siècles, la Grande Assemblée a eu l'occasion de prendre de très nombreuses dispositions. Des dispositions qui ont permis au peuple d'Israël de passer de l'exil de Paras à l'exil de Yavan. Ils ont pris toutes les dispositions pour que le peuple d'Israël continue d'exister après les Nevi'im, puisqu'il n'y avait plus de Nevi'im, il n'y avait qu'au début de la grande assemblée des Nevi'im. Et on nous dit, toute cette grande assemblée, Hem Amrou Shlosha Dvarim, ils ont dit trois choses. Mes chers amis, vous avez tous un sidour à la maison. Il n'y a pas un mot dans le sidour qui ne vient pas de la grande assemblée. Hem Tiknu Tfila, les membres de la grande assemblée, entre autres, c'est eux qui ont institué les Tfilot. Alors ils ont dit trois choses. Ils n'ont dit que trois choses, les membres de la grande assemblée. Et que nous ont-ils dit? Et vous metunim badim, ve'amidut almidim harbe, ve'asu seyag la Torah. Soyez circonspects dans vos jugements. Ve'amidut almidim harbe. Et faites en sorte d'élever, amidou, élever de très nombreux disciples, ve'asu seyag la Torah. Et instituer des barrières autour de la Torah. Ça, ce sont les messages que nous ont délivrés les membres de la Grande Assemblée. Et là, on se retrouve en effet dans la logique de Maseret Avot, dans laquelle, au nom, non pas d'un Tana ici, mais de Knesset Agdola, on nous livre un enseignement qui est un enseignement qui peut et qui doit nous accompagner dans notre vie de tous les jours, de manière à nous faire grandir. Il ne s'agit pas de considérer que tous ces enseignements sont que pour les Dayanim, ou que pour les Rabbanim, ou que pour une certaine catégorie. La Mishnah dans Avot nous oblige à avoir des repères et de savoir que parmi nos repères, il y a la nécessité d'être en permanence, d'avoir en mémoire en permanence les enseignements des membres de la Grande Assemblée. C'est grâce, d'une part, à Moshe Rabbeinu, sur lequel je voudrais conclure. C'est grâce à Moshe Rabbeinu qui s'est mis dans une situation où la Torah demeure éternelle. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la Gemara de Menachot qui racontait que au moment où Moshe Rabbeinu est rentré au cours de Rabbi Akiva et qu'il ne comprenait pas Tashash Kocho, et qu'ensuite, quand il a entendu Halacha le Moshe Misinai, Nityashva Da'ato, il a retrouvé ses esprits. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il a faibli, et à un autre moment, il a retrouvé ses esprits? Hachamim nous disent que s'il a faibli parce qu'il ne comprenait pas, c'est parce qu'il a eu peur à ce moment-là de ce qu'il ait été introduit par Rabbi Akiva ou par quelqu'un d'autre, un enseignement que lui-même n'aurait pas reçu au Sinaï. Et à quel moment Nityashva Da'ato, à quel moment il a retrouvé ses esprits? C'est quand Rabbi Akiva a dit « Halacha le Moshe Misinaï, je n'ai rien inventé de moi-même. Tout est Halacha le Moshe Misinaï, tout est Torah Moshe, tout est la Torah de Moshe qui est éternelle parce que Moshe s'est mis dans la situation de transmettre une Torah éternelle. » Je vais conclure sur deux points. Le Baal HaTanya, le premier admour de Lubavitch, il fait un commentaire surprenant sur un verset de la Torah. Et le verset est le suivant. Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha Shoel Me'imach. Toi Israël, c'est une injonction à tous les Juifs. Ma Hashem Elokecha Shoel Me'imach. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Si ce n'est de le craindre. C'est un passou qui est en Dvarim, et c'est Moshe Rabbeinu, dans le Mishne Torah, qui résume la Torah, qui s'adresse au peuple juif et qui leur dit: qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qui im leir auto, pas grand chose de le craindre. Et le Baal HaTanya dit: quoi? Seulement pas grand chose de le craindre. Alors, il cite Chazal, il cite les sages qui disent: la crainte de Dieu, on en parle ici comme si c'était quelque chose de facile, comme si c'était quelque chose de secondaire. Moshe Rabbeinu en parle comme si c'était quelque chose de facile et ils disent: bien sûr, pour Moshe Rabbeinu c'était facile, mais pour moi, pour nous, le Baal HaTanya dit: mais pour moi, je ne suis pas Moshe Rabbeinu, comment je fais ça? Et il conclut que si Moshe Rabbeinu s'exprime ainsi envers le Ham Israël, c'est seulement la crainte de Dieu, c'est parce qu'il a la conviction que tout le monde peut y arriver. Et les Hachamim nous disent, le Baal HaTanya répond, il sait que tout le monde peut y arriver parce que dans la Neshama de chaque Ben Israël, dans la Neshama de chaque Juif, il y a Prinat Moshe, un peu de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Dans la Neshama de chacun d'entre nous, il y a un peu de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et s'il y a un peu de la Neshama de Moshe Rabbeinu, alors c'est suffisant pour nous permettre, en effet, de nous comporter durant tous les jours de notre vie avec la crainte de Dieu. Vous savez que, à propos de Moshe Rabbeinu, la Torah en parle toutes les parachiotes à partir du livre de Shemot. Mais lorsque Moshe Rabbeinu apparaît pour délivrer le Ham Israël, il a 80 ans déjà. Nous ne savons pas grand-chose, ou très très peu de choses, sur les 80 premières années de sa vie. Il y a uniquement 3 versets dans la Torah qui nous donnent des indications, et encore, ils sont complétés par les Midrashim, sur ce qu'ont été les 80 premières années de la vie de Moshe Rabbeinu. Je ne veux pas entrer maintenant dans le commentaire de ces versets qui donnent quelques indications sur la vie de Moshe Rabbeinu. En revanche, je voudrais rentrer sur la naissance de Moshe Rabbeinu, sur les versets qui parlent de la naissance de Moshe Rabbeinu et de la manière dont il a été sauvé. Moshe Rabbeinu, après sa naissance, a été gardé dans son foyer par sa mère pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, elle savait que les Égyptiens viendraient chercher le nourrisson à naître. Moshe Rabbeinu est né avec 3 mois d'avance. Et donc, la xéra est qu'il ferait partie de tous ces enfants juifs qui subiraient le décret de Paro, qui était « Kol haben ha'ilod ha'ora tashlichuhu ». Tous les enfants, tous les garçons qui naîtront, eh bien, il faudra les jeter dans le fleuve. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque la Torah nous dit, au chapitre 2 dans Shemot, au verset 3, lorsque sa mère a vu qu'elle ne pouvait pas le garder, elle a fabriqué une petite corbeille dans laquelle elle a installé, qu'elle a bien enduit de matière qui ne prend pas l'eau, et qu'elle a posé Moshe Rabbeinu et qu'elle a laissé voguer sur le fleuve. Et sa sœur, dit le verset, sa sœur Myriam, qui avait 3 ans de plus que lui, j'espère ne pas me tromper, 6 ans de plus que lui, sa sœur Myriam a attendu pour voir ce qui allait advenir de Moshe. Et à ce moment-là, nous dit la Torah, Vatered bat paro lirhotz al hayor. La fille de Paro est descendue pour se baigner au bord du fleuve. C'est comme si je disais, la fille d'Hitler est descendue pour se promener à proximité du ghetto de Varsovie. Est-ce que vous imaginez les escortes qu'il y avait autour de la fille de Paro? Du plus grand dictateur qui dirigeait la plus grande puissance de l'époque. La fille de Paro est descendue, l'Irhotz, pour se baigner, Venaarotea Olchot Aliadhaior. Elle est descendue avec ses servantes. Alors on a gardé l'image de ce qu'on nous a raconté lorsqu'on était à l'école primaire ou à la maternelle, que la fille de Paro était sans doute quelqu'un de très agréable, très gentil, qui est descendu pour se promener. La fille de Paro, lorsque son père, qui est le souverain, a donné l'ordre de tuer, de jeter au fleuve tous les enfants juifs, comment peut-elle, elle, se délier de l'injonction qu'a donnée son propre père ? Je vous ai parlé tout à l'heure de la fille d'Hitler et du ghetto de Varsovie. Il a été découvert dans un des camps de concentration dont on dit qu'il était l'un des moins sordides et des moins cruels pour les Juifs. C'est le camp de Majdanek, qui n'a pas été conçu pour être un camp d'extermination, mais au départ pour être un camp de travail. Il est devenu ensuite un camp d'extermination, mais pas du tout à la même échelle Auschwitz, par exemple. Il y a eu là-bas aussi des chambres à gaz et des fours crématoires. Il a été découvert, après la guerre, qu'à proximité, vraiment collé aux cheminées qui approvisionnaient les fours une baignoire. Personne n'a essayé, n'a compris comment quelqu'un avait eu l'idée d'installer une baignoire juste collée aux cheminées qui approvisionnaient les fours. Jusqu'au moment où quelqu'un a révélé le secret. Les Allemands, organisés comme on le sait, ne gaspillaient rien, ne perdaient rien. Et le chef du camp, pour se détendre, avait besoin de prendre des bains bien chauds, hein, genre de sauna ou jacuzzi, ou je ne sais pas trop. Mais comme les Allemands ne gaspillaient rien, ils n'avaient pas l'intention de consommer même du bois pour réchauffer l'eau inutilement, ils ont installé la baignoire du chef du camp à proximité des cheminées qui alimentaient les crématoires, pour que la chaleur des cheminées puisse réchauffer l'eau dans laquelle se détendait le chef du camp. Ce genre de cruauté, c'est presque rien en regard de ce que Paro avait décidé. La fille de Paro, elle s'approche du fleuve et elle demande à l'une de ses servantes, il y a d'autres commentaires, Vatishlach et Amata, elle demande à une de ses servantes d'aller récupérer cette petite corbeille qui flotte sur le fleuve. Elle ouvre, Veine nar boche, dit la Torah, elle voit un petit garçon qui pleure. Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle doit faire à ce moment-là? Quel est l'ordre de son père? Elle a fait l'erreur de récupérer un garçon juif parce qu'elle observe bien et elle dit « Va tomer miyalde ha'ivrimze » C'est un juif. Une fois qu'elle le prend dans les mains, on a peur qu'elle le prenne et qu'elle le jette pour lui exploser le crâne contre un rocher. Elle ne fait pas ça. Parce que sa sœur, la sœur de Moshe Rabbeinu, ne lui donne pas le temps de réfléchir. « Va tomer achoto el bat paro » La sœur de Moshe dit à la fille de Paro, « Est-ce que tu veux que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes juives pour qu'elle nourrisse cet enfant ?» Et qu'est-ce qu'elle lui répond ?« Va tomer la bat Paro » Et la fille de Paro répond « Léhi » Quand on lit le passouk de la Torah, « Va tomer la léhi » Elle lui dit « Vas-y !» Elle lui a peut-être crié à la façon des nazis « Léhi !» Déguerpi, va-t'en d'ici. Elle lui a dit, va-t'en. La petite est partie. Et elle est revenue avec sa mère. Vous imaginez ce que Myriam, une enfant de 6 ans, rentre à la maison. Elle était partie observer son frère sur le Nil, dans cette petite corbeille, pour voir ce qui allait en advenir. Et elle vient lui dire, tu sais que le petit est entre les mains de la fille de Paro. La mère ne réfléchit pas. Et elle vient tout de suite, ne sachant pas quel sort non plus allait lui être réservé, elle vient avec Myriam, elle récupère le petit parce que la fille de Paro lui donne le petit pour qu'elle l'allaite. Ça relève véritablement d'une aise absolue. Dans tout cet épisode de la Torah, vous aurez observé que je l'ai appelé Bat Paro parce que la Torah ne donne pas son nom. Nous avons tous appris, on nous a raconté, à juste titre, que la fille de Paro, elle s'appelait Bithya. D'où ça vient ce nom Bithya? D'abord, je voudrais vous dire que Flavius Joseph, il dit que la fille de Paro était considérée comme une divinité, qu'elle s'appelait Teramotis, et qu'elle était l'une des déesses au panthéon des déesses égyptiennes. C'est seulement dans le livre de Divrei Hayamim, les chroniques, le livre des chroniques, qu'apparaît un verset qui dit la chose suivante. « Ve'ele bene bitia bat paro » Et voici qui ont été les fils de Bithya, la fille de Paro. C'est seulement dans le livre des chroniques qu'apparaît ce nom de Bithya. Et vous savez ce que dit le Midrash ?« Amar la Kadosh Baruch Hu » Akadosh Baruch Hu lui a dit « Moshe lo haya bener » Moshe n'était pas ton fils. Vekarato bincha, bener, pardon. Et tu l'as appelé ton fils. Tu l'as élevé comme ton fils. Af ani, dit Hashem kaviachol, moi aussi. Lo at biti, tu n'es pas ma fille. Vak ani kore otar biti, je t'appelle ma fille, c'est pour ça qu'elle s'appelle Bit-Ya, Bat-Ya, la fille de Dieu. En conclusion, lorsque Bat-Ya, elle recueille Moshe et elle décide de l'élever comme son fils, elle lui donne un nom et elle l'appelle comment ? Moshe. Et elle ajoute Ki min hamayim meshitihu. Elle l'appelle Moshe et Rashi commente et d'autres commentateurs. Il est appelé Moshe parce qu'il a été récupéré, il a été puisé, il a été sorti de l'eau. Mais dans un hébreu correct, c'est pas Moshe qu'on aurait dû l'appeler. Il a été puisé, il aurait dû être appelé Mashoui. Il a été puisé. Moshe, ce n'est pas celui qui a été puisé, c'est celui qui puise les autres. Elle lui a donné le nom de Moshe, nous dit Rachamim, parce qu'elle a perçu à quel point elle-même, qui était au niveau le plus bas, dans la Avodah Zara, fille de Paro, déesse elle-même, elle qui était au niveau le plus bas, est arrivée au niveau de Bat-Ya, est arrivée au niveau de la fille de Dieu, parce que c'est Moshe, la Neshama de Moshe, qui lui a permis de s'élever à ce point-là. C'est Moshe Rabbeinu qui a la capacité, nous disait le Baal HaTanya, de nous aider à sortir de notre propre Mitzrayim, c'est-à-dire de nos propres Mitzrayim, de nos propres limites et de nos propres frontières. C'est parce qu'il y a une Prinat Moshe en chacun de nous. C'est parce qu'il y a une dimension de la Neshama de Moshe Rabbeinu dans chacun d'entre nous que nous pouvons considérer que l'on peut s'élever très très haut jusqu'au niveau où être ben, fils ou fille de Akadosh Baruch Hu. Hashem Yarzerenu al devar kevod shemo. Rappelez-vous que la Nevoa, la transmission s'est faite des Ekenim onvi'im et des Nevi'im au Anshe Knesset Agdola. Et je vous ai dit que Anshe Knesset Agdola, les membres de la Grande Assemblée, au début, il y avait des Nevi'im parmi eux, et à la fin, il n'y en avait plus. La Grande Assemblée, au moment où elle a constaté que la Nevi'out s'arrêtait, que la prophétie s'arrêtait, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de lien qui venait du haut, qui venait du ciel vers les hommes, ils ont mis en place une assemblée de prière. Ils ont institué la Tfila pour reconstituer le lien, mais non plus un lien qui venait du haut vers le bas, mais un lien qui va du bas vers le haut. Et nous avons la capacité d'aller du bas vers le haut, parce que nous avons la chance d'avoir une dimension de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Vashem yarzerenu al devar kevod shemo. Amen ve amen. Je ne sais pas s'il y a des questions, si on veut remettre les questions, ou si on...